J'ai été contactée par un monsieur se faisant passer pour un avocat pour une fusion-acquisition qui joue vraiment sur le fait que ça doit rester confidentiel. Alors, tous les virements s'élèvent à 520 000 euros. Et là, tout s'effondre. Donc, j'ai pleuré à partir de ce moment-là pendant un mois complet, jour et nuit. On a ce sentiment quand même de culpabilité, de honte. On se sent vraiment minable.
Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude. Et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple, vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de fraudologie. La fraude en entreprise, c'est quelque chose qui peut faire mal aux personnes qui la subissent. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'estime que c'est une chance, parce que c'est des témoignages qui sont rares. Le témoignage comme celui qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, c'est le témoignage de Sandy, qui est comptable dans une entreprise familiale industrielle d'environ 50 personnes. Et qui a subi une fraude et qui vient donc nous expliquer ce qu'elle a vécu. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Donc Sandy, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ?
Eh ben oui, du coup j'ai été embauchée dans cette entreprise et je viens de cabinet comptable. Et 8 mois après mon embauche, au mois de juillet, j'ai été contactée par un monsieur se faisant passer pour un avocat par l'intermédiaire de notre cabinet d'experts comptables qui suit notre entreprise.
Et d'accord, alors je vous interromps, juste deux petits points. Le premier point, c'est on est en juillet 2020, donc on vient sortir du confinement.
Oui.
Et la personne qui vous appelle au nom du cabinet comptable que vous connaissez donc,
oui.
Donc il connaissait le nom de votre expert comptable.
Oui, apparemment.
D'accord.
Oui. Du coup, effectivement, en entendant le nom du cabinet d'experts comptables, je n'ai pas été plus surprise que ça. Après,
ouais.
Il me demande si je sais pourquoi il m'appelle. Alors, je lui réponds que non. Il me demande si mon employeur m'a parlé de l'affaire qui va suivre. Donc, je lui explique toujours que non, je suis au courant de rien. Et
ouais.
Dans le même instant, je reçois un mail de mon employeur m'expliquant justement qu'il me confie une affaire de la plus haute importance, qu'il compte sur moi pour mener à bien les événements qui vont suivre, parce que je vais être obligée d'effectuer des virements pour une fusion-acquisition, et du coup c'est à moi que revient la charge de mener cette affaire à bien.
D'accord. Donc là, il vous valorise, il met en avant le fait que voilà, vous êtes un maillon essentiel de l'opération pour que ça débouche.
C'est ça. Et pour moi, ce mail vient de mon employeur. Je vois pas de choses particulières, de problèmes dans l'adresse mail.
C'est la bonne adresse mail qui est utilisée. Il y a pas un petit caractère qui change. C'est exactement la bonne adresse.
Peut-être, mais vu que c'est un mail que j'ai supprimé, j'ai pas pu revenir dessus pour vérifier justement. Mais
ouais.
À mon avis, il devait y avoir un truc de différent, mais sur le coup, je.
Ouais, ça vous paraît aujourd'hui, voilà, au moment où ça arrive, ça vous paraît complètement plausible, et en plus, c'est corroboré par cet appel. Enfin, les deux se corroborent, quoi.
C'est ça. Les deux sont simultanés même. Il me parle de cette future fusion-acquisition. Que tout sera contrôlé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qu'il y aura une procédure à suivre très réglementée, qu'il faut que je me laisse guider par eux et que tout se passera bien.
Et donc là, effectivement, la procédure réglementée dont il parle, assez naturellement, ça vous rassure parce que ça. Il y a une autorité qui va contrôler les choses, donc ça paraît tout ça très très cadré, quoi.
Ça paraît voilà très cadré. Après, sur le coup, je me pose quand même des questions. Après, je me dis, effectivement, après le Covid, c'est vrai qu'on est une entreprise avec de la trésorerie. Est-ce qu'ils ont eu, du coup, un projet intéressant qui est arrivé et que, du coup, et je me suis dit, effectivement, ça, pourquoi pas?
Ouais, le contexte est plausible.
Le contexte était plausible à cet instant-là.
Ok, très bien. Et donc, alors, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite on vous demande de faire des virements? Comment ça se passe après?
Oui, le jour même. Tout de
D'accord,
suite.
Le jour même.
Le jour même, donc, je reçois des mails réguliers avec des heures pour faire des virements. Alors tout d'abord, déjà, on me donne le compte, le RIB du compte sur lequel je fasse des virements. Et régulièrement, ils m'appellent sur ma ligne directe professionnelle jusqu'à prendre mon téléphone portable pour des raisons de confidentialité parce que je suis pas dans un bureau où je suis toute seule. Donc, ils jouent vraiment sur le fait que ça doit rester confidentiel, que rien ne doit... filtré et que du coup, moi, à aucun moment, oralement, je ne dois parler de cette affaire en cours, ni à mes collègues de travail, ni à ma famille, et ni même à mon employeur de façon orale.
Ouais, ils vous coupent de tout votre environnement, quoi.
C'est ça. Ils jouent là-dessus, sur la confidentialité du projet, que s'il y a un élément qui filtre, on peut passer à côté de l'affaire en cours.
Ok, je comprends. Et géographiquement, dans les bureaux, vous disiez que vous n'êtes pas toute seule.
Moi, je ne suis pas toute seule. On a un grand bureau, mais j'ai une collègue de travail à 3-4 mètres de moi.
Donc, d'accord. Et donc là, l'objectif, c'est qu'elle n'entende pas votre discussion, quoi.
C'est ça. Donc à chaque fois qu'il m'appelle, je sors du bureau pour aller téléphoner plus loin pour recevoir les consignes et puis...
Ouais, donc là, ils arrivent à contourner la proximité géographique avec votre collègue.
Ah ben,
et votre collègue, à aucun moment, elle se dit ça fait plusieurs fois que tu sors du bureau, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, si, mais moi, j'ai une affaire j'ai une affaire personnelle en cours dont je lui avais parlé avec une histoire de succession avec un notaire, donc comme par hasard en plus.
Donc, ah ouais, ça tombe.
Oui, mais tout est. Donc, je trouve l'excuse facilement pour dire je dois régler une affaire de succession avec mon mari et le notaire m'appelle régulièrement. Donc, je mens même à ma collègue.
Oui, mais après, voilà. Pour couvrir le truc. Et puis, vous avez une excuse qui est tellement belle, qui est tellement plausible et qui est et en plus d'actualité.
Pour le coup, oui, voilà. C'est une excuse qui arrive au bon moment, quoi. Enfin.
Donc, on vous donne un numéro de compte. Le numéro de compte, est-ce que vous avez regardé? C'est un numéro de compte qui est français? C'est un numéro de compte qui est étranger? Vous savez ou pas?
C'est un numéro de compte belge.
Alors, continuons. Donc, là, vous avez la procédure. Donc, là, c'est le jour où vous avez été contacté. On vous donne le numéro de compte. On vous donne la procédure. Vous faites un virement.
Oui. Je fais un ou deux virements par jour.
D'accord.
Avec des heures à respecter. Et je dois leur fournir les confirmations de virement et je dois leur dire que tout est en règle, il n'y a pas de problème à peu près deux fois dans la matinée et deux fois dans l'après-midi. En général, c'était 9h, midi et demi. Moi, je revenais au bureau à 1h30.
D'accord. Et alors, ça durait combien de temps, ça?
Une semaine.
Une semaine pendant laquelle vous faites entre un et deux virements par jour.
C'est ça.
D'accord. Donc, vous faites des virements pendant une semaine et alors, au total, la somme cumulée des virements que vous avez fait dans le cadre de cette procédure qu'on vous imposait, ça s'élève à combien?
Alors, tous les virements s'élèvent à 520 000 euros.
Ok, donc il y a 520 000 euros qui disparaissent par divisé en une dizaine de virements. Ça fait une moyenne de 50 000 euros par virement, quoi. D'accord. Alors, l'outil que vous utilisez pour faire les virements, c'est quoi?
Alors, nous, on a un outil de transfert des suites entreprises, c'est délivré par la Banque Populaire.
D'accord.
Et donc, tous mes virements passent par là. Et après, je valide les virements sur l'espace bancaire.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, le numéro de compte belge, vous l'avez enregistré dans votre outil de communication bancaire et qui ne nécessite pas de validation parce que c'est un outil qui est en dehors du site internet de la banque. Oui. Et une fois que vous avez envoyé le fichier, alors c'est de l'IBIX, hein, c'est des, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais vous envoyez le fichier vers la banque et ensuite vous vous connectez à la banque pour finir la procédure qui est la validation de l'opération.
C'est ça.
Ok. Donc ça dure une semaine. On a un peu plus de 500 000 euros qui partent. Que se passe-t-il? Comment est-ce que vous... Alors, déjà, la procédure, comment est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'on vous dit, OK, l'opération est terminée, vous n'entendrez plus parler de nous? Qu'est-ce qui se passe à la fin pour eux?
À la fin pour eux, en fait, on doit... Alors déjà, je vous le disais, en milieu de semaine, j'ai eu un doute et du coup, j'ai envoyé un mail sur la boîte mail par laquelle on communiquait.
Ouais.
Pour savoir qu'il y a aussi... affecter des adresses mail qui on devait après communiquer que par l'intermédiaire de ces boîtes mail qui étaient censées être contrôlées justement par l'AMF et Sécurité.
D'accord, donc ça veut dire qu'on vous avait créé, là vous, ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous échangez avec vos interlocuteurs, non pas par votre adresse mail du professionnel, mais par une adresse mail qui a été créée spécifiquement pour l'objet.
Alors moi, ça reste mon adresse mail pro.
D'accord.
Par contre, j'ai une adresse mail sécurisée pour mon employeur et une adresse mail sécurisée pour eux.
D'accord. Donc et là, a priori, ça leur évite à eux de continuer à pirater la boîte mail de votre employeur. Et puis, tout ça crédibilise finalement le fait de sortir des interlocuteurs mail, en tout cas habituels, quoi.
Ben, ça crédibilise la confidentialité, la sécurité de l'opération, le contrôle par l'AMF.
Je comprends tout ça. C'est un indice de plus qui vous rassure.
Qui me rassure, mais qui en même temps me fait douter, enfin, du fait aussi de faire des gros virements.
Ouais.
Et je leur en parle, je leur envoie un mail sur l'adresse sécurisée en disant pouvez-vous me rappeler? Je stresse de l'opération.
Bien sûr.
Voilà. J'ai besoin de vous parler. Et puis, ils me rappellent dans la foulée pour me rassurer. Donc, je leur explique. J'ai l'impression d'être quand même dans une science-fiction que la procédure est particulière, que c'est assez stressant.
Ouais.
On est vraiment timé. Et que du coup, je doute même de. Je leur avoue que j'ai des doutes. Et puis, voilà, ils arrivent à nous réembobiner et puis
Il réactive finalement votre confiance dans la procédure.
Ouais, il réactive ma confiance et du coup c'est reparti et je finis la semaine tranquillement.
D'accord. Et donc à la fin de la procédure, on vous dit OK, c'est terminé, c'est ça?
On me dit que logiquement la fusion acquisition du coup va être publiée, qu'ils vont venir dans nos locaux pour faire l'annonce de cette fusion acquisition, grosso modo en carrément une cérémonie, quoi.
Ah oui, d'accord, donc on officialise vraiment en grande pompe, quoi.
On officialise carrément cette fusion acquisition et que ça se fera donc début de semaine qui suit.
D'accord. Et donc là, vous n'entendez plus parler d'eux.
Le week-end passe et le lundi, silence radio. J'envoie un mail pour savoir ce qu'il en était et tout. Et là, je ne fais rien. Ni un coup de téléphone, ni mail, ni rien.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Et ben là, je commence à me dire que... Enfin, je commence à douter vraiment.
Ouais.
Et je commence à me dire qu'il faut que j'aille voir mon employeur et que je romps. Parce que moi, en plus, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal.
Ouais.
Mais j'avais du mal quand même à aller voir mon employeur parce que je voulais pas rompre la confidentialité.
Ouais, bien sûr. Et vous vouliez pas faire capoter l'opération.
Voilà. Je voulais pas faire quelque chose de mal. Alors qu'à la sortie, ce que j'avais mal fait, c'était la semaine avant.
Oui, je comprends bien, mais c'est vrai que voilà, comme vous êtes convaincu et que vous voulez permettre à votre entreprise de grandir et d'être vraiment un atout pour l'entreprise, Vous voulez pas casser quelque chose, mais maintenant que l'opération, vous avez eu la confirmation que ça pouvait se faire, vous vous dites enfin, je peux peut-être rompre cette loi du silence qui m'a été imposée, quoi.
C'est ça.
Donc là, vous allez voir votre employeur.
Je vais voir tout de suite mon employeur et je lui demande si les virements, s'il est au courant des virements que j'ai fait la semaine dernière.
Ouais.
Et là, il me dit, mais de quel virement vous me parlez? Donc, je lui explique, vous savez, la fusion-acquisition, les virements pour la fusion-acquisition, l'opération financière que vous m'avez confiée. Donc, là, il m'annonce que ça ne vient pas de lui, qu'il n'est au courant de rien. Et là, et ben, c'est.
Et là, c'est la douche froide.
Ouais. Et là, c'est la douche froide, ouais, complètement. Et là, tout s'effondre.
Et là, tout s'effondre.
Ouais.
Alors, comment vous vivez ce moment? Parce que alors là, vous êtes donc face à votre employeur. Vous réalisez la supercherie.
Ouais.
Donc, j'imagine les sueurs froides qu'on peut avoir à ce moment-là.
Ah ben là, on est à la limite de tomber dans les pommes.
Ah oui, mais j'imagine. C'est derrière, terrible.
Le corps qui... Oui, je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour rester debout et je sais pas, mais bon, c'est après j'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai pleuré à partir de ce moment-là pendant un mois complet, jour et nuit.
Oh là là.
Et donc la première chose que mon employeur m'a dit de faire, c'est d'aller porter plainte à la police.
Oui.
Et puis on a appelé la banque. Et du coup, eux, ils ne pouvaient intervenir que s'ils avaient un procès verbal.
Donc, vous allez porter plainte, vous apportez la preuve de la plainte à la banque, et là, la banque, oui. Elle arrive à récupérer des fonds ou pas?
Non, pas du tout. On n'a récupéré rien. Enfin, on n'a rien récupéré. Enfin, c'est trop tard. En général, ils peuvent intervenir dans les 24 heures maximum de l'argent est déjà.
Ouais, ce qu'on appelle les recalls dans les échanges de fonds, c'est effectivement très court terme. Et puis une fois que l'argent est parti, quand il est arrivé sur le compte belge en l'occurrence, vous imaginez que les fonds ils restent pas là, ils disparaissent après dans la nature, quoi.
Alors après, en plus on était au mois de juillet, la banque avant de nous faire un retour sur les fonds qui étaient perdus. Ça a mis quand même bien un mois et demi de mois. On a plus eu des infos à la rentrée.
Ah oui.
J'ai passé juillet et août.
Ah là là, oui, j'imagine dans un état terrible.
Complet. Et puis, ça a été très, très violent. Et puis au début, j'ai appelé tous les jours pour savoir s'il y avait des nouvelles. Et puis j'ai bien vu que de toute façon, je n'en avais pas. Et effectivement, à la rentrée, on a eu quelques infos. Mon employeur a eu des infos et j'ai pas eu tous les retours non plus parce que nos relations se sont fortement dégradées.
Oui, j'imagine.
Il n'y en avait pas beaucoup avant, mais là, ça a été. Donc, j'ai pas eu en plus tous les retours de la banque. C'est pas arrivé jusqu'à moi de toute façon.
Ouais. Alors, juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur le fait que vos relations se sont dégradées. On pourra peut-être en reparler, mais vous aviez déjà peu de relations avant avec votre employeur. C'est-à-dire que vous êtes la seule comptable de l'entreprise. On n'a pas précisé ça, mais vous êtes seule comptable dans l'entreprise.
Oui, je suis la seule comptable de l'entreprise et il n'y a que moi qui fais les virements. Mon employeur ne les fait pas non plus. Il doit me les valider en contresignant mes éditions de virements. Mais en aucun cas, il y a une double signature ou quoi que ce soit de sécurité.
Ouais, alors ça, c'est important. Ouais, dans le processus de paiement, pour vous qui nous écoutez, vous saisissez le virement dans votre outil, vous l'imprimez, vous le faites signer à votre dirigeant, mais donc là, c'est que papier. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous finissez la procédure électronique.
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire que la procédure papier, si elle n'existe pas, le virement peut passer quand même.
Oui, totalement.
Donc vous avez toutes les cartes en main pour
Je suis la seule, tout à fait. Donc je pense que ce qu'ils cherchaient, j'étais la candidate, on va dire, idéale.
En tout cas, il y a un certain nombre de critères qui font que l'organisation de l'entreprise, c'est pas vous en tant que personne, c'est l'organisation qui présentait des vraies fragilités, notamment celle-ci, le fait que vous ayez toutes les cartes en main pour faire toutes seules les opérations, et donc une fois isolé, ça devenait critique, quoi.
Ouais. Et puis d'autant que pour moi, la validation, je l'avais eue, puisque l'affaire émanait de mon père à la base.
En plus, vous aviez eu ce mail, effectivement.
Donc, pour moi, effectivement, la validation de ces virements, elle était activée.
Ouais, ouais. Et donc, comme c'était un dirigeant avec lequel vous aviez pas ou peu de relations, parce que dans une entreprise de 50 personnes, il est peut-être plus à gérer ses clients et sa production que sa comptabilité.
Oui, et puis c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup à la base. Ouais. Le fait de pas lui en parler oralement, finalement, c'était pas trop gênant.
Ouais, c'était pas anormal de pas avoir, d'avoir un contact qui soit que par mail, finalement, avec quelqu'un qui vous avez déjà pas l'habitude, qui vienne vous taper dans le dos tous les jours, quoi.
C'est ça.
Ouais. Donc c'est une fragilité supplémentaire. C'est la première, c'est le processus de paiement où vous aviez toutes les cartes en main pour tout faire toute seule. Et la deuxième chose, c'est une communication qui finalement favorise la capacité des fraudeurs à vous isoler.
Oui, complètement.
C'est ça.
Et puis le fait que je sois nouvelle quand même dans la société, j'aurais peut-être eu plus d'ancienneté, j'aurais eu le temps peut-être de plus les connaître, d'apprendre à les connaître.
Oui.
Et j'aurais être réagi différemment.
Bon, l'histoire nous le dira pas, mais après, bon, c'est on peut pas imaginer ce que ça aurait été 10 ou 15 ans après. Le fait est que il y avait clairement des fragilités qui ne sont pas de votre fait, dont vous héritiez en arrivant dans cette entreprise, jeune ou pas jeune dans le poste finalement. Ces fragilités-là auraient été existantes, quoi. C'est vraiment ce que je veux dire, c'est que vraiment ça repose pas que sur vous, même si j'imagine assez bien que votre employeur vous a fait porter toute la responsabilité de la perte, parce que c'est plus de 500 000 € de perte pour une entreprise de 50 personnes.
Ben, c'est ça. Le problème, c'est que c'est une grosse somme, et puis concrètement, et encore maintenant, hein, c'est de ma faute. J'aurais dû en parler, j'aurais dû. J'assume complètement le fait que j'aurais sûrement dû, oui, communiquer moi aussi de mon côté, et puis d'autant que j'étais nouvelle dans l'entreprise, essayer discuter avec ma collègue, j'en sais rien.
Ouais, mais c'est bon, on peut pas refaire l'histoire, Sandy. On peut pas refaire l'histoire.
D'abord, je la refais.
Voilà, avec des conditionnels, on peut effectivement imaginer une histoire qui est une fin heureuse et qui vous dédouane finalement de ce qui s'est passé réellement, mais malheureusement, on peut pas revenir en arrière. Toujours est-il que moi, je suis convaincu. Alors, c'est pas pour. Enfin, je pense que c'est important aussi quand même d'entendre des messages qui soient déculpabilisants, parce que clairement. Les fraudeurs ont une énorme capacité à mettre sous influence, à vous enfermer, à vous isoler, à, en plus, dans un contexte qui les favorise, clairement, et c'est pas vous qui êtes en cause, n'importe qui aurait pu se faire avoir. N'importe qui aurait pu se faire avoir.
J'arrive à l'entendre maintenant, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment quand même de culpabilité, de honte. On se sent vraiment minable.
Ouais.
Et puis, je pensais clairement aussi à l'entreprise. Je me disais si l'entreprise doit couler à cause de moi, enfin, je ne sais pas comment je vais réagir.
Ouais, ouais.
J'étais en plus un peu traînée dans la boue, hein, parce que vous êtes suspectée, hein, vous êtes en première ligne,
ouais.
Même par la police. Hein.
Ah oui, la police vous a soupçonnée ?
Ah ben, complètement, ouais. Quand j'ai été témoignée, parce que le dossier est transféré à la police judiciaire,
oui.
Spécialisée dans les escroqueries, et quand vous allez déposer plainte au centre de police de la ville, eux, ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans, donc ils prennent votre plainte, qui n'aurait pas dû prendre d'ailleurs, et après votre dossier est transféré dans le service
de police, d'accord.
Et après on est reconvoqué, et donc ils ont fouillé toute ma vie, ils ont mes relevés de banque, mes relevés téléphoniques. Mes parents, toute ma vie a été filtrée pour me disculper, en fait. Et sachant qu'en plus, la police a gentiment fait savoir à la police judiciaire que j'étais quelqu'un de louche.
Ah bon? Donc, pourquoi?
Oui. Bah, je ne sais pas. Parce que, apparemment, la grosse somme d'argent, ils ont pas cru à mon histoire, je pense. Alors, ils prennent votre plainte en essayant d'être compréhensif, mais en fait, par derrière, on apprend que...
Ah oui, donc en plus, vous êtes suspecte et on vous prend pour une malfrat. Ouais.
Oui, complètement. Donc ça a été le deuxième effet qui se coupe, on va dire, parce que ça, je l'ai encore encaissé derrière, de se dire, même la police m'a qualifié de quelqu'un de louche. Et heureusement, la police judiciaire, qui sont spécialisés, eux, m'ont rassuré et m'ont dit que la police n'avait pas à réagir comme ça et que eux, par contre, ils ont fait toutes ces recherches, ils ont même demandé mon curriculum vitae pour me disculper parce qu'effectivement, s'ils remontent la source et qu'ils trouvent les coupables,
ouais,
et qu'il y a un procès, eh ben, je serai en première ligne au procès.
Donc là, aujourd'hui, donc on a compris que c'était la police nationale que vous êtes allé voir, vous a prise pour une... Enfin voilà, vous a soupçonné, vous a trouvé louche, pour reprendre votre terme. Mais quand c'est arrivé entre les mains des personnes qui ont l'expérience et qui ont la compétence pour juger, enfin pour travailler ce type d'affaires, clairement, on vous a disculpé.
C'est ça.
Mais pour autant, ça ne vous... il faut que eux, dans la procédure, montent un dossier pour vous protéger au cas où l'affaire va plus loin.
C'est ça.
Ça, c'est important pour ceux qui, malheureusement, pourraient vivre la même chose, de s'assurer que, effectivement, pour préserver finalement l'avenir, à défaut d'être professionnel, au moins personnel, des personnes qui pourraient se faire avoir, de s'assurer qu'il y a bien un dossier qui apporte les preuves de votre innocence, voilà, pour éviter que ça vous revienne plus ou moins tard dessus, quoi.
Non, mais c'est ça. Parce que les conséquences derrière, à titre personnel, si le dossier est mal géré, oui, ça peut être dramatique.
Ouais. Bon, en l'occurrence...
Et je dois même faire changer, je dois faire changer ma carte d'identité. Parce que dans l'histoire, ils avaient aussi la copie de ma carte d'identité, toujours dans l'esprit contrôle AMF pour un certificat d'équité. Et la police judiciaire m'a fortement conseillé de changer ma...
Ouais, faire en sorte que votre pièce...
Ma carte d'identité.
Que la pièce d'identité que vous leur avez, enfin dont vous leur avez fourni une copie, qui porte un numéro, elle soit plus valide et que
plus
du
valide.
Coup vous puissiez avoir vous un titre d'identité valide qui ne soit pas le même. Oui, ok.
Oui.
Donc ça aussi, ça peut faire partie des réflexes à avoir si on subit ce type de fraude. Évidemment, porter plainte. Voilà, vérifier qu'il y a un dossier qui vous innocente et faire refaire votre pièce d'identité, en tout cas les pièces que vous auriez pu confier à ces personnes-là, aux fraudeurs, pour les empêcher de les utiliser à d'autres fins plus tard, quoi.
À d'autres fins plus tard, ouais. Parce que souvent, apparemment, ils les utilisent pour contracter des prêts bancaires.
Oui.
Et après vous vous trouvez avec eux. Être contractant d'un prêt bancaire que vous n'avez jamais signé, mais bon, ils ont vos papiers d'identité. Donc, pour éviter d'en rajouter, je vais...
Ouais, vous avez fait le nécessaire.
C'est ça.
Écoutez, Sandy, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je pense que vous connaissez toute mon histoire, en tout cas. Juste que je faisais ce témoignage pour que ça s'arrête.
Ouais, que ça serve à d'autres.
Ouais. Et que ça serve à d'autres.
Ouais, c'est vraiment notre objectif commun. Merci beaucoup, Sandy, pour votre témoignage, parce que c'est vraiment une démarche qui est pas simple, qui est courageuse. Et c'est probablement pour ça aussi que ça continue à exister, parce que les gens ont honte d'en parler, que ce soit les entreprises ou les personnes en direct qui ont vécu ces fraudes.
Le sentiment de honte vraiment dessus.
Et voilà. Donc on n'en parle pas, et donc ça empêche les autres de savoir, et donc ça permet aux fraudeurs de continuer leur action, quoi. Merci encore, Sandy. Merci. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous relever de cette expérience. Je vous souhaite de rebondir, de trouver une issue où vous puissiez, de nouveau être solide dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Et je vous remercie encore profondément pour votre témoignage.
Eh ben, merci à vous aussi.
Je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que ce témoignage-là vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Mais celle-ci va faire date. Merci beaucoup, Sandy. Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles, et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.